VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Au micro, Camille Grosdidier, Anne Robertson, bonjour. Au sommaire, en ce mercredi 17 juin 2015,
les enquêteurs tchadiens sont à pied d'œuvre à N'Djamena pour faire la lumière sur le double attentat suicide de lundi.
La police judiciaire est mobilisée, donc nous sommes en train d'abord de vouloir analyser la nature des engins, le type de haut commissariat à force de minage. Et puis sur le terrain, nous avons fait des prélèvements des engins explosifs sur le terrain.
Nous entendrons le procureur de la République, Al-Ghassim Khamis.
Profitant d'une accalmie à Bujumbura, le gouvernement a fait prêter serment à deux nouveaux membres de la CENI, la Commission électorale nationale.
Sans surprise, l'opposition était absente au Parlement lors de cette cérémonie. Elle qui demande depuis plusieurs semaines une CENI et des dates consensuelles pour la tenue des élections.
Notre envoyé spécial Bagassé Koura nous en dira plus.
Les États-Unis ont annoncé une aide humanitaire supplémentaire pour le Soudan du Sud.
À New York, le milliardaire Donald Trump s'est porté candidat à la présidentielle américaine. Et puis, les Golden State Warriors ont été sacrés champions NBA mardi soir après avoir battu les Cleveland Cavaliers.
Pour commencer, le journal.
Au Tchad, le président Idriss Déby a promis que les auteurs du double attentat qui a fait une vingtaine de morts lundi à N'Djamena répondront de leurs actes. Eddy Sango.
Visiblement ému, le chef de l'État tchadien a fait cette déclaration hier à sa descente d'avion. Il revenait du sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. Sans citer nommément Boko Haram, groupe djihadiste auquel est attribué le double attentat, M. Déby a parlé de la main invisible et ses commanditaires qui ont durement frappé le pays. Je ne suis pas trop surpris puisque depuis notre engagement le 17 janvier 2015 aux côtés des pays qui sont menacés par les terroristes, j'ai continuellement dit au gouvernement de ne pas baisser la garde, a affirmé le président tchadien. Des attaques répétées de Boko Haram ont déjà frappé plusieurs fois les Nigeria, les Niger et les Cameroun. Celle de lundi n'est toujours pas revendiquée. Elle est, selon les autorités tchadiennes qui l'attribuent à Boko Haram, la première du genre dans la capitale tchadienne. La sécurité est renforcée à travers N'Djamena. Des appels sont lancés à la banque de sang pour les blessés qui se comptent par plusieurs dizaines. Plusieurs suspects ont déjà été interpellés par les forces de l'ordre, mais les commanditaires et les complices sont toujours recherchés selon le procureur de la République, Al-Ghassim Khamis. Le président Déby a reçu des encouragements de son homologue français, François Hollande, au téléphone. Au moins 4 terroristes ont été tués dans les attaques de lundi, selon les autorités tchadiennes.
Les États-Unis ont annoncé une aide humanitaire supplémentaire pour le Soudan du Sud. Ce pays recevra plus de 133 millions de dollars pour faire face aux besoins résultant de la recrudescence des combats ces deux derniers mois et de la détérioration rapide des conditions dans le pays. Les États-Unis ont appelé toutes les parties au conflit à mettre fin à la violence.
Fin mardi soir de la réunion régionale de deux jours à Abuja au Nigeria pour discuter des stratégies à mettre en œuvre en vue de juguler la menace de la grippe aviaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. La rencontre organisée par la FAO et la CDAO en collaboration avec d'autres agences internationales a également porté sur l'impact de la maladie et les moyens de renforcer les préparatifs ainsi que les capacités des pays à réagir face au virus H5N1.
Un nouveau rapport d'experts propose des moyens de prévenir les abus sexuels par les casques bleus. Il préconise notamment d'écarter des missions de paix les soldats de pays qui bafouent les droits des enfants. Michel Joseph.
Rédigé sous la direction du prix Nobel de la paix, José Ramos Horta, le document a été remis hier au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Commandé l'an dernier, avant la série d'accusations d'exploitation ou d'abus sexuels impliquant des casques bleus en Haïti, au Libéria et en RCA, le rapport vise à réviser pour la première fois depuis 15 ans l'ensemble des opérations de maintien de la paix pour les adapter à la nouvelle donne où les casques bleus sont de plus en plus souvent appelés à gérer des conflits et directement menacés. Un résumé consulté par l'AFP recommande l'exclusion des missions de maintien de la paix des pays qui bafouent les droits des enfants dans les conflits. Il suggère de divulguer les sanctions prises par les pays contributeurs de troupes contre leurs militaires et de dénoncer l'absence de sanctions contre les soldats coupables. Le nouveau rapport recommande, par ailleurs, d'accélérer les enquêtes qui ne devront pas dépasser 2 trimestres au lieu de 16 mois actuellement.
La police italienne a procédé mardi à l'évacuation de plusieurs dizaines de migrants qui campaient à la frontière entre l'Italie et la France, sur des rochers de la côte méditerranéenne. Quelques 300 migrants, essentiellement en provenance du Soudan, de l'Érythrée et de la Somalie, s'étaient réfugiés depuis 5 jours, près de 26 000. Un grand nombre d'entre eux ont été repoussés par la police française.
L'intervention des forces de police italiennes en tenue anti-émeute coïncidait avec la tenue à Luxembourg d'une réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne consacrée à la crise de l'immigration. L'Italie reproche à ses partenaires européens un défaut de solidarité alors que les migrants déferlent sur ses côtes à un rythme croissant depuis le début de l'année.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Al-Qaïda dans la péninsule arabique a reconnu mardi que son chef Nasser al-Wahishi a été tué dans une attaque de drone américain la semaine dernière. Dans un enregistrement vidéo, la milice a désigné le chef militaire du groupe, Qassem al-Rimi, comme son successeur.
De l'avis des analystes, la mort d'Al-Wahishi, un ancien proche d'Osama Ben Laden, est un coup dur pour les djihadistes. Les États-Unis n'ont pas confirmé que la CIA ait été à l'origine de la frappe de drone qui a tué le leader d'ACPA.
En Égypte, un tribunal a confirmé la condamnation à mort de Mohamed Morsi, le président islamiste déchu en 2013 par l'actuel président Abdel Fattah al-Sissi. Le verdict prononcé hier inquiète Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Le point avec Morgan Guiriec.
L'ONU est contre la peine de mort en toutes circonstances, a déclaré le service de presse de Ban Ki-moon. Le secrétaire général de l'ONU redoute notamment que ces verdicts n'aient un impact négatif sur la stabilité de l'Égypte à long terme. Même son de cloche à Washington, où l'on se dit profondément troublé. Les autorités américaines ont notamment dénoncé des verdicts politiquement motivés. Dans ce procès de masse pour violence et évasion de prison durant la révolte de 2011, plus de 90 autres personnes ont été condamnées à mort aux côtés de Mohamed Morsi. Le même tribunal l'avait précédemment condamné à la prison à vie pour conspiration avec des groupes étrangers, y compris le Hamas palestinien. Depuis l'éviction de Mohamed Morsi du pouvoir en 2013, le gouvernement égyptien a apporté de multiples accusations contre lui et les dirigeants de son organisation, les Frères musulmans, qui font l'objet d'une vague de répression massive.
Vladimir Poutine a annoncé mardi que la Russie va renforcer son arsenal nucléaire avec le déploiement de plus de 40 nouveaux missiles intercontinentaux d'ici la fin de l'année. À l'occasion du salon militaire Armée 2015, le président russe a dit que ces missiles devraient être capables de déjouer les systèmes de défense antimissiles les plus sophistiqués.
Selon le département d'État américain, la Russie a déjà déployé 515 missiles intercontinentaux et autres dotés de près de 1600 ogives nucléaires.
Ici aux États-Unis, le milliardaire Donald Trump, personnage haut en couleur, a déclaré mardi qu'il était candidat à la présidentielle américaine. Il a promis de rendre au pays sa grandeur tout en critiquant vertement la classe politique. Jacques Aristide.
Le flamboyant Donald Trump a annoncé sa candidature lors d'un rassemblement à l'intérieur de sa Trump Tower, la tour Trump, sur la 5e avenue à New York. Il est arrivé par un escalier roulant au son de Rockin' in the Free World de Neil Young. Le richissime homme d'affaires de 69 ans a vivement critiqué les dirigeants américains, tous stupides et corrompus d'après lui. Malheureusement, le rêve américain est mort, mais si je suis élu, il reviendra plus fort et meilleur qu'avant et nous rendrons aux États-Unis leur grandeur, a dit Donald Trump, tel que le rapporte l'AFP. Les experts accordent très peu de chance aux manias de l'immobilier qui se considèrent républicains. Partisan de la première heure de Ronald Reagan, il avait déjà envisagé de se présenter à la présidence en 1988, 2000, 2004 et 2012, mais y avait renoncé et avait soutenu pour la dernière élection le candidat républicain Mitt Romney.
A signalé que le porte-parole du chanteur canadien Neil Young a fait savoir au New York Times que la campagne de Donald Trump a utilisé la chanson sans sa permission.
Lors d'une audience à Capitol Hill, ici à Washington, les parlementaires américains ont fustigé l'incompétence des responsables fédéraux de la cybersécurité qui se sont avérés incapables d'empêcher des hackers de s'infiltrer dans les réseaux informatiques du gouvernement pour obtenir illicitement des données privées sur quelque 4,2 millions de fonctionnaires.
Et toujours aux États-Unis, décès du milliardaire Kirk Kerkorian. Cet enfant d'immigré arménien sans le sou est mort à l'âge de 98 ans après avoir forgé un empire dans l'hôtellerie de luxe et acheté un studio à Hollywood. Il avait abandonné l'école très tôt et bâti sa fortune en pilotant jusqu'à Las Vegas, dans le Nevada, de riches Américains avides de jeux de hasard.
Et on enchaîne avec la Minute Éco, présentation Timothée Donangmaï.
L'inégalité des revenus affecte négativement le potentiel de croissance au niveau mondial. C'est ce que relève une étude du Fonds monétaire international publiée cette semaine. Le meilleur remède, selon cette étude, l'aide aux pauvres et à la classe moyenne. Les auteurs du document réfutent la théorie du ruissellement selon laquelle les politiques économiques favorables à la classe aisée ont un effet indirect bénéfique sur le reste de la société. Dans la même veine, le rapporteur onusien pour les droits des migrants suggère aux pays riches faisant face à l'afflux de centaines de milliers de migrants en quête d'une vie meilleure de s'inspirer des leçons apprises de la prohibition des années 20 ici aux États-Unis. François Crépeau, que cite l'agence Reuters, fait remarquer qu'au lieu de résoudre le problème de l'alcoolisme, l'interdiction des boissons alcoolisées avait créé un marché noir pour ces boissons faisant la fortune des trafiquants. En régularisant la situation de leurs migrants, les pays européens sauraient exactement où se trouvent ces personnes au lieu de les précipiter dans les bras des passeurs par des politiques répressives, a souligné le rapporteur onusien pour les droits des migrants. Enfin, début hier à Abidjan de la deuxième conférence internationale de la certification des produits agricoles, ICC 2015. Le thème, certification, outils de valorisation et de compétitivité des filières agricoles.
Voilà les sports maintenant avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille. On commence par la finale NBA. Le sixième match de cette finale avait lieu cette nuit entre Golden State et Cleveland.
Eh bien oui, les Golden State Warriors ont été sacrés champions NBA mardi soir après avoir remporté le match 6 des finales sur le parquet des Cleveland Cavaliers. Le score 105-97. Golden State remporte ainsi son premier titre depuis 1975. Le Mozambique change de sélectionneur.
L'ancien défenseur du Mozambique, Elder Manomano Muyanga, remplace le sélectionneur de l'équipe nationale, João Chissano. Le malheureux a été limogé après la défaite subie dimanche face au Rwanda 1-0 lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. C'est ce qu'a annoncé hier soir la Fédération nationale à Maputo. Muyanga aura pour tâche immédiate de relancer la sélection dans un groupe H pas facile avec le Ghana, le Rwanda et l'île Maurice.
Et le Milan AC change, lui, d'entraîneur.
Le Serbe Senisa Mihajlovic est le nouvel entraîneur du club lombard. Mihajlovic, entraîneur de la Sampdoria de Gênes ces deux dernières saisons, a signé un contrat de 2 ans, précise le club dans un communiqué. Un peu plus tôt, le club rossonero avait annoncé la fin de l'expérience Pippo Inzaghi, âgé de 41 ans. L'entraîneur avait mené l'équipe à une médiocre 10e place du championnat italien. Coupe du monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande. Les Lions de la Teranga, les Sénégalais contre le Brésil.
Eh bien, le Brésil a écrasé les Lions de la Teranga sur le score de 5-0.
Et à suivre à partir de 7h30, temps universel, l'autre demi-finale qui oppose les Maliens et la Serbie. Enfin, la Coupe du monde féminine au Canada. Le Cameroun et le Nigeria l'ont-ils emporté, Camille ?
Abby Wambach a marqué peu avant la mi-temps et les États-Unis ont battu le Nigeria 1-0 à Vancouver au Canada mardi. Les Américaines se sont retrouvées au sommet du groupe D avec 7 points. Elles seront donc au rendez-vous lundi à Edmonton pour les huitièmes de finale. Et puis le Cameroun a vaincu la Suisse 2-1 mardi à Edmonton et termine deuxième du groupe C au Mondial 2015. Ce gain lui permet de passer directement en huitièmes de finale où il affrontera la Chine samedi dans ce même stade du Commonwealth.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grosdidier pour vous présenter les dossiers du jour. Les enquêteurs tchadiens sont à pied d'œuvre à N'Djamena pour faire la lumière sur le double attentat à suicide de lundi qui a fait une vingtaine de morts, dont 4 kamikazes présumés. C'est la première fois que le Tchad fait face à une attaque terroriste de cette nature et de cette ampleur. Et pour en savoir davantage, Timothée Donangmaï a joint à N'Djamena le procureur de la République, Al-Ghassim Khamis.
C'est vrai, nous ne sommes pas habitués à ces attaques terroristes. C'est la première fois que nous sommes victimes de ces actes. La police judiciaire est mobilisée. Donc, nous sommes en train d'abord de vouloir analyser la nature des engins. L'équipe de haut commissariat pour le déminage était sur le terrain. Nous avons fait des prélèvements des engins explosifs sur le terrain. Donc, ils vont nous dire exactement la composition matérielle des engins explosifs. Des analyses des ADN sur les premières victimes, notamment les docteurs même.
On parle de quelques suspects déjà aux arrêts. Qu'en est-il?
Pour le moment, il y a quelques suspects. Pour ne pas perdre la scène de crime, quelques personnes qui étaient sur place au moment des faits ont été interpellées. Bon, maintenant, l'enquête va déterminer leur connexion avec ce qui s'est passé, quel est le degré de leur participation, est-ce qu'ils sont réellement impliqués. Là, c'est à l'enquête de déterminer.
Les deux attaques n'ont pas été revendiquées, mais au niveau du Tchad, on pointe du doigt Boko Haram.
Ceux qui se sont fait exploser, leur corps est complètement déchiqueté, mais leur tête a été intacte et retrouvée. Donc, les cicatrices sur le visage montrent bien que des ressortissants qui doivent vraiment appartenir à cette cercle-là.
Pour ce qui est de l'enquête, est-ce que ce sera un effort exclusivement tchadien ou bien vous allez requérir une aide internationale?
Le terrorisme a montré qu'il n'a pas de frontières. L'enquête en matière de terrorisme a été toujours vraiment une enquête nationale et quelque part internationale. Pour le moment, les équipes qui sont sur le terrain se composent uniquement des officiers et des enquêteurs tchadiens. Mais nous ne crions pas si le besoin de l'enquête s'est senti. Nous ne crions pas une enquête internationale.
Le procureur de la République, Al-Ghassim Khamis, nous parlait depuis N'Djamena.
La voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Camille Grosdidier qui vous accompagne pour Le Monde aujourd'hui. Au Burundi, c'est l'accalmie depuis plusieurs jours à Bujumbura, la capitale. Et le gouvernement en a profité pour tenir une cérémonie de prestation de serment de deux nouveaux membres de la CENI. Il s'agit de deux femmes qui remplacent les membres qui avaient démissionné pour protester contre les pressions du pouvoir. De Bujumbura, on écoute le reportage de notre envoyé spécial, Bagassi Koura.
Le gouvernement a voulu marquer un coup. Pour installer les deux nouveaux membres de la CENI, les parlementaires proches du pouvoir, les membres du gouvernement et les représentants des forces armées étaient tous présents. Et c'est le président Pierre Nkurunziza lui-même qui a présidé la cérémonie. La prestation de serment de ces deux nouveaux membres de la CENI a été saluée par le président de l'institution, Pierre Claver Ndayikariye.
Voilà, le Burundi est là. Nous avons deux nouvelles commissaires de la CENI. Ce sont des citoyennes burundaises. Et elles ont, je crois, compris qu'il faut d'abord servir. Servir la nation, servir le peuple, servir au processus électoral. Et non pas céder aux pesanteurs externes à la commission électorale.
Sans surprise, l'opposition était absente au Parlement lors de cette cérémonie. Elle qui demande depuis plusieurs semaines une CENI et des dates consensuelles pour la tenue des élections.
Nous n'avons pas participé à cette cérémonie que nous considérons comme une parodie.
Charles Nditigé, le président de l'UPRONA.
C'est une comédie politique parce que la mise en place des deux membres, nouveaux membres de la CENI, a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Les deux dames, après investigation, sont proches du CNDD-FDD. On n'a pas contacté les partis de l'opposition, alors que normalement, la mise en place doit se faire de manière consensuelle. Donc aujourd'hui, c'est une CENI qui est composée exclusivement des membres du CNDD-FDD. Donc, c'est une CENI tout à fait acquise à la cause du candidat Nkurunziza.
Récemment, le président burundais Pierre Nkurunziza avait affirmé que 90% de la population a déjà retiré la carte d'électeur dans la perspective des prochaines élections. Ce mardi, le président de la CENI a martelé que son institution est prête pour la tenue des scrutins à venir. Pierre Claver Ndayikariye.
En réalité, pour les élections des députés, pour les élections des conseils communaux, nous sommes prêts depuis plusieurs semaines.
Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, estime qu'environ 100 000 Burundais sont réfugiés dans les pays voisins en raison de la crise et l'opposition rejette tout processus électoral qui ne tienne pas compte de ces réfugiés. Bujumbura, Bagassi Koura pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Que signifie l'affaire Omar El-Béchir pour les relations entre les systèmes judiciaires et les pouvoirs en Afrique? Le gouvernement sud-africain a-t-il violé la constitution en laissant le président soudanais quitter son sol alors qu'Omar El-Béchir est recherché pour génocide par la CPI? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h08.
Ici Washington, Camille Grodidier avec vous. Crise d'eau à Gao, dans le nord du Mali. La station de production de la ville est aujourd'hui incapable de satisfaire les besoins en eau potable des populations et celle-ci s'inquiète à l'approche du Ramadan. Depuis Gao, on écoute le reportage de notre correspondant Boubacar Touré.
Depuis plusieurs mois, certains quartiers de la périphérie de Gao ont cessé de voir leur robinet couler. Voici le témoignage de Madame Meiga.
Pour avoir de l'eau, on va jusqu'au 7 pour aller chercher de l'eau. De 0h jusqu'à 5h ou 6h30 du matin, on n'arrive même pas à trouver un seau d'eau. Pour avoir aussi la charrette, il faut payer. Quand tu payes aussi, tu vas payer très dur. Parfois, tu demandes de t'amener 6 bidons, par exemple, on va te dire que tu vas payer au moins 3000 francs ou bien 2500. Quand tu n'en es pas, comment tu vas trouver cette eau-là? Si ça continue comme ça, que le mois de carême nous trouve sur ça, vraiment, on va souffrir. Sans l'eau, on ne peut pas préparer, on ne peut pas manger, on ne peut pas faire le lavage. On en est marre.
Pour comprendre les difficultés dans la production de l'eau potable, nous avons rencontré un responsable de la SOMAGEP, comprenez par là la Société malienne de gestion de l'eau potable à Gao, qui a bien voulu garder l'anonymat. Il nous fait comprendre que l'usine de production est incapable de satisfaire ses 5000 abonnés. Le besoin de la population de Gao en eau potable s'élève à 11 000 mètres cubes par jour, alors que l'usine ne produit que 7 500 mètres cubes par jour. Aux 5000 abonnés de la société, ça ajoute 794 branchements clandestins. Ainsi, les quartiers d'Aljana Banja, Sosokoira Extension Gadei sont privés d'eau et à Sosokoira Centre, au château, il faut veiller jusqu'à 2h du matin pour pouvoir être servi en eau potable. Voilà donc comment se présente le quotidien des populations de Gao en cette période de forte chaleur et à l'approche du mois béni de Ramadan. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le Sénat américain a... Non, nous partons maintenant au Burkina Faso, où l'on encourage les femmes à cultiver le coton. C'est en tout cas le cheval de bataille de la Sofitex, la société des fibres textiles du Burkina Faso, pays dont le coton est le premier produit d'exportation. Je vous propose cette correspondance de Zoumana Wonogo.
Ici au Faso, malgré la poussée permanente de l'or, le coton reste toujours le premier contributeur à l'économie nationale. Mais la culture du coton reste aussi dominée par les hommes. Pour donc inverser la tendance, la Sofitex, société des fibres textiles du Burkina, a décidé d'encourager particulièrement les femmes à la culture du coton. Jonas Bayoulou, le secrétaire général de la Sofitex explique.
Dans les exploitations individuelles, dans le cadre de l'organisation de cette exploitation, les femmes soutiennent souvent leur mari. Mais ce que l'on souhaite surtout encourager, c'est les femmes qui ont décidé par elles-mêmes de se mettre en groupement de producteurs de coton et de s'organiser, prendre les crédits et puis les rembourser tranquillement. C'est surtout cette catégorie-là qu'on souhaite véritablement encourager.
In concreto, comment se traduit cet encouragement? Suivant la réponse de Jonas Bayoulou.
On ne donnera pas de l'argent frais à quelqu'un. L'objectif visé étant de créer les conditions qui permettent aux producteurs de se fixer davantage sur la culture du coton. Donc tous les prix qui seront donnés sont des prix en nature. C'est clair que lorsque vous avez équipé mieux le producteur, lorsque vous l'avez doté de meilleurs moyens de travail, lorsque vous l'avez équipé en magasin pour mieux stocker ses intrants, vous avez préservé un certain nombre de surcoûts qu'il vivait et qui vont faciliter le travail qu'il réalise sur le terrain.
Que pensent les hommes producteurs de coton de l'accent mis sur les femmes? Écoutons ce qu'en dit le cotonculteur Ardiouma Sanou.
Mais je trouve ça une bonne chose. Aujourd'hui, là, tout le monde doit contribuer au développement. Puisque tout ça, là, ça part à la bonne sens de la famille. Aujourd'hui, si moi je n'ai rien, la femme va m'épauler. Alors, surtout, on a des enfants qui sont à l'école aujourd'hui. Si aujourd'hui, si moi je n'ai pas de sous, elle peut me compléter.
Notre cotonculteur avait à ses côtés Mariam, son épouse. Elle explique en langue nationale Djoula comment les femmes s'organisent pour cultiver le coton. Je vais faire un hectare. Nous les femmes, on est organisées en groupement et à tour de rôle, on passe dans le champ de chacune pour cultiver. C'est de la sorte qu'on s'entraide. La culture du coton est certes difficile, mais il y a beaucoup d'argent dedans. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et l'on ouvre cette fenêtre sur les États-Unis où le Sénat américain a décidé à une majorité écrasante d'interdire le recours à la torture dans les interrogatoires de terroristes présumés et autres suspects détenus par les États-Unis. Ce vote transforme en loi le décret du président Barack Obama qui prohibait l'utilisation de ce que les officiels américains appelaient des techniques d'interrogatoire renforcées. Le point avec Idrissa Sedoudia.
Le vote de mardi fait suite à un rapport publié l'année dernière par la commission sénatoriale du renseignement et qui a fait l'objet d'une bombe. La commission y détaille des années d'abus abjects allant des simulations de noyade à l'alimentation détrectale, un procédé par lequel des aliments sont introduits dans l'anus de certains des détenus capturés après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Aux États-Unis. Ce rapport avait été rédigé par la sénatrice démocrate Dianne Feinstein, alors présidente de la commission. Elle a aussi coparrainé la proposition de loi qui assujettit toutes les agences américaines, du Pentagone à la CIA, aux techniques d'interrogatoire autorisées par un manuel de l'armée américaine. Nous pouvons renouveler notre engagement en faveur du précepte fondamental que les États-Unis ne torturent pas, sans la moindre exception, sans la moindre équivoque, pour assurer que les erreurs de notre passé ne seront plus jamais répétées. Le co-auteur de la mesure, le sénateur républicain John McCain, président de la commission de la défense et ancien prisonnier de guerre au Vietnam, a dit que sa propre expérience lui a montré que torturer des prisonniers ne produit aucun renseignement fiable.
Our enemies act without conscience. We must not.
Nos ennemis agissent sans conscience aucune. Nous ne devons pas. Nous devons continuer d'insister pour que les méthodes que nous utilisons dans ce combat pour la paix et la liberté soient toujours aussi justes et honorables que les objectifs et les idéaux que nous défendons dans cette lutte. Certains collègues républicains de M. McCain ainsi que certains candidats de son parti à la présidentielle de 2016 ne le voient pas ainsi. Ils estiment en effet que, dans certains cas extrêmes où des vies américaines sont en jeu, les autorités américaines devraient avoir une marge de manœuvre quant aux tactiques utilisées pour soutirer des informations aux terroristes présumés. Cela dit, rien ne garantit à ce stade la promulgation de cette loi. Elle a été votée comme un amendement à un énorme projet de dépenses militaires, dont certaines contre lesquelles la Maison-Blanche menace d'user de son veto, bien que l'opposition du président Barack Obama à la torture ne fasse pas l'ombre d'un doute depuis son arrivée au pouvoir.
C'est la fin termine de cette édition du Monde Aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, au micro Camille Grosdidier. Je vous invite à nous retrouver sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Et en attendant, très bonne journée à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.